Le dehors, l'impossible et moi, un calendrier intellectuel. Le mois de novembre 2006, selon Martine Emmanuelle Lapointe.
J'ai longtemps cherché l'événement qui, tiré du dehors, ce vaste entrepôt de sujets bruts livrés à l'interprétation, me permettrait de réfléchir sur ce mois de novembre 2006. À Vancouver, où je vis encore en squatter, nous avons traversé une sorte de psychose météorologique, provoquée par une série de tempêtes invraisemblables qui plongèrent une partie de la ville dans l'obscurité, qui condamnèrent tous ses citoyens à bouillir leur eau. Paysage de fin du monde, grand vent, pluie torrentielle, neige. Voilà grosso modo ce que me racontaient quotidiennement les journaux locaux. Mots, visions qui me ramenaient à la canonique imagerie crépusculaire rattachée au mois de novembre. L'inévitable fête des morts, mais surtout ce sentiment de la faim qu'incarnaient pour moi ces paysages ensommeillés, ces arbres tordus sous le poids de la neige, cette brume épaisse qui recouvrait comme un voile les montagnes. Dès lors, j'interprétais toutes les nouvelles internationales à la lumière ou à l'ombre de cette mythologie quasi-gothique, comme si je faisais mien les mots de Flaubert, tirés, il va sans dire, d'un texte de jeunesse au lyrisme appuyé, intitulé justement « Novembre ». Elle est triste la saison où nous sommes, on dirait que la pluie va s'en aller avec le soleil, le frisson vous court dans le cœur comme sur la peau, tous les bruits s'éteignent, les horizons pâlissent, tout va dormir ou mourir. » Fin, triste ou bonne. Oui, fin de Saddam Hussein, abolition de la majorité républicaine au Sénat, dilution des accords de Kyoto, possible disparition de l'avenue du Parc. Au fil du mois, nul événement ne semblait retenir autrement mon attention. Enfin, jusqu'à ce fameux 22 novembre, jour où fut annoncé par Stephen Harper que la nation québécoise existait. La motion, je le rappelle, peut-être inutilement d'ailleurs, se lisait comme suit. Les Québécois forment une nation au sein d'un Canada uni. C'est curieux, mais cette nouvelle m'est parvenue de manière inattendue, surprenante, étonnante. Je n'attendais pas. Je me sentais très loin du débat, un peu en retrait. Estrange, pour reprendre un mot anglais que j'apprécie tout particulièrement et dont on ne retrouve pas vraiment l'équivalent dans la langue française. J'ai surtout ressenti un malaise, que je m'expliquais mal, qui n'était nullement rattaché à des convictions politiques personnelles. J'essaierai aujourd'hui de réfléchir à partir de ce malaise, d'en tirer des questions, des constats, des hypothèses qui me permettront d'estranger, si l'on me permet ce néologisme, ma première réaction affective, de la remettre en perspective. Le malaise à partir duquel j'essaierai de théoriser un peu était lié, d'une part, au poids symbolique de la motion. Cette importance conférée à une simple phrase, aux quelques mots qui la composent, me semble recouvrir un paradoxe intéressant. Car cette motion n'a qu'une existence discursive. Or, dans une société où domine l'utilitarisme, comment concevoir une telle gratuité? Comment penser une telle dépense de symboles? S'agit-il d'un retour à la relation dominant-dominé, décrite par Hubert Aquin dans Profession écrivain en 1963? Selon Aquin, je le rappelle, le dominé était enfermé dans un rôle ingrat, assimilable à une pure fonction sociale. Artiste plutôt que financier, le dominé n'avait jamais accès aux sphères du pouvoir. Aussi Aquin s'identifiait-il doublement au dominé, je le cite, « de savoir que je suis doué pour les arts, du fait même que je suis dominé, que tout mon peuple est dominé et que son dominateur l'aime bien digane, chantant, artiste jusqu'au bout des doigts, porté tout naturellement vers les activités sociales les plus déficitaires. » Fin de la citation. Enfermé dans le symbolique, comme l'a dit d'ailleurs l'essayiste Jean Larose dans les années 80, la communauté québécoise n'arriverait guère à sortir de l'aliénation. Les choses ont évidemment changé. On ne peut plus parler aujourd'hui de la domination comme on en parlait dans les années 1960. Nous ne vivons plus dans ce monde. Les dominés ne sont plus les mêmes. La domination et l'aliénation ne fonctionnent plus de la même façon. Mais en est-il vraiment ainsi? Je dirais plutôt, et ce n'est pas neuf, que l'aliénation linguistique, culturelle et économique a un nouveau visage et qu'elle ne dépend plus des mêmes relations de pouvoir, qui étaient surtout économiques chez Aquin. L'aliénation culturelle contemporaine se présente sous la forme d'une dictature du gros bon sens, de la vie mode d'emploi, de l'utilitarisme transformé en philosophie de vie. Même les divertissements doivent servir. Les artisans bénis de la télévision et du cinéma québécois contribuent évidemment à nourrir tout cela avec leurs émissions de bonnes manières, de belles bouffes, de beaux vêtements, de belles maisons, de bons achats, de parfaites discussions, de mignons débats, de bons sentiments, de bonne conscience, de comment faut-il vivre et de comment faut-il faire. Les films les plus populaires exaltent désormais les vertus nationales de manière détournée. Un joueur de hockey qui parlait peu mais dont le regard était si intense, une pauvre enfant battue, une chanteuse ambitieuse lobotomisée dans les années 50 ou un policier frustre, gaffeur, mais bien plus habile que son collègue anglophone lorsqu'il s'agit de parler le langage des sentiments, nous permettrait, du moins selon les gens qui ont créé ces figures presque mythiques, de mieux comprendre notre misérable passé collectif, notre grande noirceur et l'oppression des Anglais et du clergé dont nous avons été les innocentes victimes. Je précise que le « nous » est utilisé ici par pur réflexe, difficile de dire à quoi il renvoie exactement, difficile de dessiner ses contours, difficile de comprendre pourquoi il refait toujours et inlassablement surface. La nation, puisqu'elle semble exister dans ses productions culturelles relativement récentes, en est réduite à la représentation misérabiliste du passé et du présent collectif, représentation qui ne tolère évidemment aucune forme de critique, de distance, et qui se complaît dans une forme de vantardise primaire et manichéenne, par laquelle seul le talent brut et indompté tient lieu de culture. Lorsqu'il s'agit de vendre la nation québécoise, on aura beau jeu d'évoquer le talent infini de Céline Dion, la créativité des artisans réunis sous le chapiteau du Cirque du Soleil, ou encore le génie de Robert Lepage. Le génie qui, comme l'a si bien écrit Jacques Derrida, est souvent conçu sous la forme, je le cite, d'une abdication obscurantiste devant les gènes, justement, une concession à la génétique de l'ingenium, ou pire, à un innéisme créationniste, en un mot, dans le langage d'un autre temps, la complicité douloureuse de quelque naturalisme biologisant et d'une théorie de l'inspiration extatique. Au fil de la réflexion que présente Derrida dans son essai « Genèse, généalogie, genre et le génie », il associe le génie à la naissance improbable, au don unique et absolu, à la jeunesse, au surgissement, à l'inhumanité, à l'immortalité et au secret. Autant de traits qui ressortissent à un au-delà de la norme et du conventionnel. Il montre bien que la génialité est indissociable de l'avènement d'une œuvre unique qui coupe paradoxalement avec toute généalogie, toute genèse et tout genre. Et il s'agit là d'un paradoxe supplémentaire lorsqu'il est question, dans les médias du moins, de culture nationale des Québécois. C'est souvent l'être unique, le génial, le talentueux qui incarnera la vigueur, que dis-je la vie, la collectivité. La nation n'est autre qu'une famille d'êtres uniques et singuliers dont les autres membres doivent absolument être solidaires. Une famille où le talent et le génie sont constamment rappelés, célébrés, mais jamais, au grand jamais, égratignés sur la place publique. Je ne reviendrai pas sur les multiples débats, essentiels il va sans dire, portant justement sur la timidité de la critique au Québec. Les auteurs réunis dans le numéro critique de la revue Spirale, paru au printemps 2006, l'ont clamé haut et fort. Ici, l'on préfère très souvent le confort de la convivialité, la compassion de l'unanimité célébrante à la critique, à l'analyse, qui sont volontiers confondues avec la violence et l'hostilité. Ce n'est plus le dominateur anglais, comme l'écrivait Aquin, qui célèbre la musicalité du dominé, l'industrie culturelle, les pouvoirs politiques et médiatiques locaux, et sans doute aussi une majorité de la communauté, se donne une telle représentation d'eux-mêmes, se veulent musicaux, diganes, artistes, comiques. Représentation gratuite, symbolique, mais fort efficace, exemplaire, pourrait-on dire. Comment s'étonner alors de l'accueil presque unanimement chaleureux de la part de politiciens pourtant issus de partis adverses, de la motion de Stephen Harper? Au pays du bon ententisme, la bonne entente a toujours raison. J'ai pourtant cherché des traces d'une résistance farouche, d'une opposition à une phrase qui me semblait, autant l'avouer, fausse, artificielle, sans écho dans la vie pratique. Certains ont bien réagi de manière critique, Antoine Robitaille, Lysiane Gagnon, Gérard Bouchard, pour ne nommer que ceux-là. Mais de manière générale, du moins dans les discours officiels des représentants du pouvoir, dans les sondages réalisés par les grands quotidiens, l'on voyait cette motion comme une déclaration qui ferait avancer la cause du Québec et des Québécois. Mais que faire d'une telle motion? Que change-t-elle? Que donne-t-elle? Si elle n'est pas qu'un masque, qu'un voile, appliqué comme un baume sur une histoire constitutionnelle éclatée, que représente-t-elle? Peu de choses, sans doute. Professeur de droit, Henri Brun, a bien écrit ceci dans les pages du Devoir. Il faut bien comprendre, d'abord et avant tout, qu'une motion de la part d'une assemblée législative est un geste politique. À ce titre, elle n'a aucun effet contraignant. Ni les tribunaux, ni les instances politiques d'ici ou d'ailleurs ne sont liés par elle. Il ne faut pas confondre le vote d'une motion avec l'adoption d'une loi, et encore moins avec la modification de la Constitution. Quelques mots, aussi jolis et sincères que les messages inscrits dans les cartes Hallmark, auront donc suffi à calmer le jeu. La résistance farouche provenait plutôt du Canada anglais. La déclaration de Stephen Harper a donné lieu à un véritable dialogue de sourds. Pour plusieurs journalistes canadiens-anglais, la motion n'était rien d'autre qu'un subterfuge visant à rallier les électeurs québécois, incarnait une sorte d'irrespect du caractère multiculturel du Canada. On ne s'opposait pas tant à la reconnaissance du caractère distinct des Québécois, mais bien au fait qu'ils puissent former une nation. Celle-ci fut-elle incorporée à un Canada uni? En témoignent les titres de plusieurs articles, « Same old rhetoric »,« Harper has sold out Canada »,« Keep noise down ». Le premier ministre de la Colombie-Britannique, Gordon Campbell, a même déclaré « It is high time we formally acknowledge Canada's third solitude, the Aboriginal peoples of Canada ». Sur la définition du mot « nation », personne ne semble s'entendre. Pour certains, il s'agit d'un mot issu d'une autre époque qui renverrait à une conception ethnocentrique de l'identité collective. Pour d'autres, elle serait résolument élastique et pourrait inclure différentes cultures, différentes langues, différents groupes, comme si l'on hésitait toujours entre le même et l'autre, entre l'estrangement et l'intrangement. Chose certaine, la nation n'a guère le pouvoir rassembleur qu'elle possédait naguère. Comme l'écrivain Jocelyn McClure dans Récits identitaires, le Québec est à l'épreuve du pluralisme. La nation, comme horizon identitaire, n'a pas été dissoute, mais plutôt désacralisée et reconfigurée. Elle ne constitue plus un ensemble figé, facilement reconnaissable, mais procède plutôt d'un projet narratif, lieu de représentation sans cesse déplacé et interrogé. Quelle histoire nationale raconte le mois de novembre 2006? J'ai parfois l'impression que la motion sera aussi vite oubliée que le discours de tel artiste ou de tel politicien invité à l'émission « Tout le monde en parle », que je rebaptiserai dans les circonstances « Tout le monde en parle cette semaine ». Le montage des meilleurs moments était à cet égard les plus éloquents. Qu'avait-on retenu? Les blagues, les moments touchants surtout, les interactions chocs, les affirmations à contenu humanitaire, mais toujours bien décontextualisées, détachées des événements et des œuvres auxquelles ils étaient liés. De brefs fragments voués à toucher les spectateurs, à les émouvoir, à les séduire. De brefs fragments replacés dans une atemporalité amnésique qui efface les œuvres et les discours, qui remplace les enseignements qu'ils pouvaient contenir par des émotions passagères et furtives. Quelle histoire nationale raconte le mois de novembre 2006? Quel message livre-t-il? Un vœu chaste et pieux des mots. En somme, une phrase exemplairement bien pensante qui, croit-on, réconciliera enfin les deux solitudes et leur permettra d'oublier leur mésentente historique. Pas grand-chose, finalement. Un rêve d'unité nationale et de respect des différences qui ressemble étrangement à une carte postale rédigée rapidement dans un style aussi limpide qu'insincère. Fin de quelque chose ou début? Mon malaise était surtout rattaché au fait suivant. La motion transforme l'identité culturelle ou collective des citoyens québécois en fait. Elle lui retire le droit à la mobilité, au projet, au changement. Elle les camoufle sous des mots à la fois clairs et imprécis, à la fois vrai et faux. Lorsque je me promène dans les rues de Vancouver, il m'arrive quelquefois de croiser des gens qui reconnaîtront mon accent, des francophones ou des francophiles, parfois aussi estranged que moi sur la côte ouest. Souvent, ils me demandent si je suis française ou québécoise. Et souvent, sans réfléchir, je leur réponds « je viens de Montréal », comme s'il s'agissait du seul lieu d'appartenance qui me convenait vraiment, qui décrivait pour moi une sorte de réalité identitaire. À Montréal, on m'a souvent demandé dans quel quartier j'habitais, puis à d'autres moments, sur quelle rue. En tentant de trouver un dénominateur commun, ne risque-t-on pas de tomber dans le piège de la phrase creuse, symbole d'une réalité qui certes existe, mais peut-être seulement en dehors des mots, dans des zones où l'ombre est justement ce qui participe aux constructions identitaires.